Voice of Indonesia.
Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, je vais vous présenter le certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en colère et des chansons indonésiennes. Aujourd'hui, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici le bulletin de formation, l'édition samedi 29 juin 2019. Le gouverneur de Sulawesi du Sud a expliqué la potentielle économique de Sulawesi du Sud au sommet du G20 à Osaka. L'Indonésie encourage les exportations agricole. Voici le bulletin complet. Le gouverneur de Sulawesi du Sud, Nurdin Abdullah, a expliqué le potentiel de Sulawesi du Sud dans la série du sommet de G20 à Osaka 2019 qui s'est tenu au Centre international des expositions à Osaka le 28 et 29 juin 2019. Le sommet de G20 Osaka 2019 était la 17e réunion de G20. G20 est un forum international réunissant des gouvernements et des gouverneurs des banques centrales de 19 pays, y compris l'Indonésie et l'Union européenne. Le gouverneur de Sulawesi du Sud, M. Nurdin Abdullah, via un réseau social, a déclaré vendredi lors d'une réunion à laquelle assistaient des investisseurs expliquant diverses choses pouvant être coopérées, comme l'irrigation Maminasata, la zone industrielle de Maros, les produits agricoles, café, chocolat, cacao, piment, l'élevage et particulier les vaches, les percéries, les crevettes et la zone économique spéciale de Selayar. L'Indonésie exportera des fruits tropicaux vers la République populaire de Chine, en ligne avec le déficit de la balance commerciale de l'Indonésie avec ce pays, d'un montant de 17 trillions roupias. Le déficit devrait être réduit au minimum par l'amélioration des relations commerciales. Le président Joko Widodo et le ministre agricole Andi Amran Sulaiman encouragent l'augmentation des exportations des fruits. L'un des efforts est de participer à l'exposition des fruits 2019 à Guangzhou en Chine. Dans cette activité, le ministère de l'Agriculture a amené 8 hommes d'affaires des exportateurs ainsi que des producteurs horticoles. Le directeur de transformation et de commercialisation des produits agricoles du ministère de l'Agriculture, Yassine Taufik, dans un communiqué de presse reçu par le quotidien Republika, a espéré qu'il y aurait la meilleure coopération bilatérale. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, lors d'une réunion avec le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi à Osaka, a déclaré que Tokyo accueillait favorablement les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique et respecte le leadership de l'Indonésie dans la région. Les deux ministres ont discuté du développement de la situation dans l'état de la Guinée et le ministre Kono a exprimé sa gratitude pour le rôle joué par le centre de coordination de l'assistance humanitaire de l'ASEAN. Le ministre Kono a indiqué dans une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères que le centre AHA avait fait du bon travail lié à des problèmes régionaux. Les deux ministres des Affaires étrangères espèrent que les négociations sur le partenariat économique global régional pourront être achevées à la fin de cette année. En ce qui concerne les relations bilatérales, les deux ministres des Affaires étrangères sont convenus que la réunion 2 plus 2 ou la réunion entre le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense de la République indonésienne du Japon se tiendra au second semestre 2019. L'Indonésie sera l'hôte de la deuxième semaine internationale de l'eau d'Asie 2020 qui aura lieu à Bali du 3 au 7 novembre 2020. Le ministre indonésien des Travaux publics et de Logement public, Basuki Hadimulyono, a déclaré vendredi dans son communiqué reçu à Jakarta que dans le cadre de la préparation de cet événement, l'Indonésie tiendrait également une réunion de consultation des parties prenantes à Jakarta du 11 au 12 novembre 2019. Cela a été déclaré par le ministre Basuki Hadimulyono lors de la signature du mémorandum d'accord entre le ministère indonésien des Travaux publics et du Logement public, le ministère néerlandais de l'Infrastructure et de la Gestion de l'eau, MIW, et l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, à Seoul, la Corée du Sud, jeudi. Le mémorandum d'accord sur la coopération du développement intégré de la côté de la capitale de l'état de la deuxième état. Le maire de Sabah Lunto, Sumatra Ouest, Dery Asta, assistera à la 43e session du comité du patrimoine mondial qui se tiendra du 29 juin au 10 juillet 2019 à Azerbaïdjan. Se présent dans le cadre de l'entrée de la ville de Sabah Lunto en tant que candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dery Asta a déclaré vendredi à Sabah Lunto, Sumatra Occidentale, que la ville de Sabah Lunto était inscrite sur le thème patrimoine minier du charbon d'Ombilin de Sabah Lunto. L'UNESCO, en tant qu'institution chargée de l'évaluation, a mené des recherches avec une équipe nommée ICOMOS. Selon leur dernière information de ICOMOS, le thème patrimoine minier du charbon d'Ombilin de Sabah Lunto, un thème administratif est complète et on attend maintenant la détermination de la 43e session du comité du patrimoine mondial. Ces auditeurs utiles, c'était le bulletin de formation aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Padang, Sumatra de l'Ouest. Le festival d'art Silek 2019 a été lancé mercredi dernier à Padang, Sumatra de l'Ouest, sous le thème Sapakaik Mangko Balega. Le Festival d'art Silek 2019 se concentrera sur les archives et de la documentation des connaissances relatives aux arts martiaux traditionnels de Minangkabau, à savoir le silat ou dans la langue locale, Silek. Le Festival d'art Silek est une activité de développement incorporée dans le format indonésien. Ce format est une nouvelle initiative du ministère de l'Éducation et de la Culture visant à développer un modèle de relations structurées entre les organisateurs d'activités culturelles indonésiennes fondées sur la coopération mutuelle. Gumala Ranti, responsable du service de la culture de Sumatra de l'Ouest, a déclaré que l'activité visait également à renforcer le Silek en tant que patrimoine mondial non matériel de l'UNESCO actuellement recherché. Il espère que cette année, le processus Silek en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO pourra être réalisé. Ensuite, l'info de la province de Gorontalo. Le Bureau de l'Éducation et de la Culture ainsi que le renforcement du bien-être familial dans la région Gorontalo faciliteront l'éducation des résidents de la tribu Polahi qui vivent à l'intérieur de la forêt Boliohutu et de ses environs. Forinawei, responsable du renforcement du bien-être familial en région de Gorontalo, a déclaré mercredi que son engagement était de fournir une éducation à tous les habitants de la région. Forinawei a admis qu'elle impliquerait le centre pour les activités d'enseignement et d'apprentissage en amenant les enseignants au plus près et en faisant participer la communauté. Il coopérera également avec l'école la plus proche afin qu'il puisse recevoir une éducation formelle. La dernière, l'info de Mentok, Bangka Belitung. Le bureau forestier de la province des îles Bangka Belitung a libéré un certain nombre d'animaux endémiques à la colline Penyabung en région Bangka de l'Ouest afin de protéger les animaux de l'extension. Lors d'une visite à la colline Penyabung, le chef du bureau forestier des îles Bangka Belitung, Marwan, a déclaré que les animaux endémiques étaient trois mantelines ou Tarsius bancanus et qu'un de ces lorilans avait été relâché dans leur habitat naturel afin de pouvoir bien se reproduire. Les activités de libération d'animaux au sommet d'une colline ont été menées par le chef du bureau forestier de Bangka Belitung en collaboration avec le chef de la police de Bangka de l'Ouest, le commandement militaire du district de Bangka de l'Ouest, l'Agence nationale de recherche et sauvetage de Bangka Belitung et un certain nombre d'habitants du village Pelangas, district Simpang Teritip, région de Bangka de l'Ouest. Les activités conjointes avec un certain nombre de ces institutions ont également été menées comme une première étape dans le cadre du développement de la colline Penyabung vers le parc géologique de la région de Bangka de l'Ouest. C'était les infos de l'Indonésie. Voice of Indonesia avec l'histoire d'aujourd'hui, le 29 juin. On commence par le 29 juin 1949, l'incident de Jogja est revenu. L'indépendance de la République d'Indonésie est proclamée depuis le 17 août 1945. Mais depuis lors, les Pays-Bas n'ont pas encore quitté l'archipel. Ce n'est que le 29 juin 1949 que tous les Indonésiens ont pu se libérer de l'emprise des Pays-Bas. En application de l'accord Roam-Royen, le 29 juin 1949, les troupes néerlandaises sont retirées en dehors de Yogyakarta et l'armée nationale d'Indonésie, ou TNI, entre à Yogyakarta. Les événements de la libération de l'armée néerlandaise et de l'entrée de la TNI à Yogyakarta étaient connus sous le nom d'événements de retour de Yogyakarta. Le président Sukarno et le vice-président Mohammad Hatta se rendaient à Yogyakarta le 6 juillet 1949. Puis le 29 juin 1966, la première attaque américaine sur le Vietnam. Après la crise politique au Vietnam Sud et la menace de forces communistes du Vietnam Nord, le président américain Lyndon Baines Johnson a finalement ordonné la première attaque aérienne au Vietnam Nord. L'armée de l'air américaine attaque des dépôts de carburant à Hanoï et à Haiphong. L'attaque était une forme de soutien américain au gouvernement du Vietnam Sud qui a été attaqué par le Vietnam Nord. Les forces américaines étaient présentes au Vietnam Sud jusqu'en 1975 et finalement, le Vietnam Sud et le Vietnam Nord se sont unis en 1976 pour devenir la République socialiste du Vietnam. Le 29 juin 1995, Atlantis, la première navette spatiale américaine, a rejoint la mer Russie. 20 ans après la rencontre spatiale entre Apollo et Soyouz, le 29 juin 1995, la navette spatiale américaine Atlantis devenait la première navette spatiale américaine à pénétrer dans le quai de la station spatiale russe Mir. Le commandant de l'Atlantis, Robert Hood Gibson, et le commandant de Mir, Vladimir Dezhurov, se sont rencontrés à bord d'un véhicule situé à environ 395 km au-dessus de la surface de la Terre. Des équipages spatiaux de Russie et des États-Unis ont vécu ensemble jusqu'au 4 juillet 1995, au faisceau spatial Mir. Cette réunion a marqué le début de la coopération spatiale internationale et de la construction d'une station publique appelée Alpha.
Hari-hariku pertama diriku pun tergoda. Hilang.
Voilà la chanson de Reza intitulée Pertama, qui signifie la première. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voici mon Indonésie, intitulée L'Agence de l'économie créative fait Denpasar la ville créative indonésienne. La ville Denpasar à Bali a été désignée ville créative dans le secteur par du secteur de la mode par l'Agence de l'économie créative ou BECRAF avec le décret du chef de BECRAF de la République d'Indonésie numéro 83 de 2019. Il a été annoncé par le directeur du bureau du tourisme de Denpasar, Désir Mulyani, mercredi dernier à Denpasar. Désir Mulyani a dit qu'il y a 10 rangées de régences et de villes créatives qui ont été déterminées en fonction de leurs sous-secteurs respectifs, du sous-secteur des arts de la scène au sous-secteur de la mode. Désir Mulyani a ajouté « La détermination des régences et des villes créatives d'Indonésie est une politique du gouvernement central visant à accélérer le développement des infrastructures matérielles. C'est un moyen d'unir la nation, de construire la civilisation, d'accélérer la connectivité culturelle, de construire une nouvelle infrastructure culturelle et de développer le potentiel du sous-secteur de l'économie créative dans une région. » Selon Désiré, la candidature de Denpasar en tant que ville créative indonésienne n'est pas seulement à la mode, mais également dans diverses œuvres créatives de la communauté et des artisans à Denpasar. Entre autres choses, artisanat, culinaire, moto sur mesure par la soumission de propositions et d'étapes de présentation du maire de Denpasar, Rai Dharmawijaya Mantra. Le sous-secteur de la mode couvre également le produit artisanaux dans les domaines des accessoires, des ventilateurs, des sandales et des chaussures. Cependant, le responsable du secteur de développement des ressources touristiques et de l'économie créative, accompagné du président quotidien du BECRAF, Iputu Yuliarta, a déclaré que l'entrée de Denpasar dans la ville créative d'Indonésie était un signe de reconnaissance et était devenue une référence pour BECRAF Denpasar et le gouvernement de la ville Denpasar afin de l'améliorer et de renforcer le programme. Ceci est certainement devenu la concentration du gouvernement de la ville Denpasar qui ne dispose pas de ressources naturelles mais stimule les ressources humaines en termes de créatifs de membres de la communauté et des parties prenantes existantes. De plus, Denpasar, qui se concentre sur les efforts des jeunes, devrait devenir une attraction touristique et une force de vente pour son travail créatif chez lui et à l'étranger. Le gouvernement de la ville Denpasar a progressivement élevé l'ensemble de la communauté existante et conclu une réunion de développement pour les communautés qui seront en mesure de développer leurs talents. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Dia yang tercinta.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Rosa, dont le titre est « Tegar » ou en français « Sévère ». Vous êtes toujours avec nous en Voice of Indonesia, de l'onde courte de 3 à 3 de 5 kHz. La rubrique suivante, voici le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale de Poplo, Indonésie.
Les amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant Horok Horok, le culinaire de Jepara, Java Centrale. L'Indonésie est une nation riche en cuisine. Il existe différents types de nourriture réparties de Sabang à Marrakech. À chaque région a ses propres caractéristiques. Jepara, l'un des endroits de l'Indonésie, propose plusieurs types de cuisine. L'un d'entre eux est Horok Horok. Horok Horok est un aliment typique du Jepara qui est assez rare et difficile à trouver dans d'autres régions. Horok Horok est composé de farine de palme façonnée en petites granules. Il a un goût salé avec une texture dure et caoutchouteuse. Le processus de fabrication de Horok Horok est assez compliqué et nécessite une longue période d'environ 2 heures, ce qui rend cet aliment de plus en plus rare et assez difficile à trouver. Vu la valeur nutritionnelle, le contenu calorique et glucidique de la farine de palme est équivalent à un contenu nutritionnel du riz. Par conséquent, Horok Horok est couramment utilisé pour remplacer du riz. La méthode de fabrication de Horok Horok est assez compliquée. La farine de palme est d'abord lavée, puis séchée, puis grillée. La farine de palme séchée est ensuite cuite à la vapeur. Après la cuisson, versée dans un bocal puis mélangée à l'aide d'un peigne. La farine de sucre à la vapeur deviendra de petits grains. Horok Horok est unique parce que le processus d'agitation utilise un peigne. Pour ajouter de la saveur, un peu de sel peut être ajouté en consommé sous forme de mélange d'autres aliments tels que boulettes de viande, gado-gado, pecel, sate kikil et autres. Bien que ce Horok Horok soit de plus en plus rare et difficile à trouver, il existe encore des gens sur le marché traditionnel à Jepara qui le vendent. Le prix de Horok Horok est très abordable. Seulement 2000 roupies. La présentation de Horok Horok est également traditionnelle car elle est enveloppée dans un feuille de teck. Au lieu de riz ou de gâteau de riz, Horok Horok peut être mangé avec du pecel ou du sate kikil. Horok Horok peut également être consommé avec du lait de coco, par exemple de la glace cendol ou de la glace teler, et peut rendre cette glace plus délicieuse. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati.
dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Tananu, tananu, tananu. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous à l'onde courte de 33 de 5 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. Chers auditeurs, voici l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici l'Indonésie en couleur, informant sur Sawah Lunto, qui est nominé pour un site du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Sawah Lunto, la plus ancienne ville minière de charbon en Asie du Sud-Est, a nommé avec succès le site du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Sawah Lunto de Sumatra de l'Ouest en Indonésie sera en concurrence avec 27 autres sites culturels de divers pays inclus dans la même proposition d'inscription. Des activités d'extraction du charbon ont été menées à Sawah Lunto au 19e siècle lorsque les Indes orientales néerlandaises sont arrivées au pouvoir. Le remplissage du charbon a changé Sawah Lunto, passant d'une région reculée à la région connue au monde. Diverses infrastructures ont commencé à être construites pour soutenir les activités minières, telles que le réseau ferroviaire de la côte ouest de Sumatra jusqu'au port d'Emahaven, appelé Teluk Bayur. L'exploitation du charbon depuis deux siècles a rendu la ville Sawah Lunto épaisse avec les interactions entre les cultures orientales et occidentales. Cela peut être vu de la disposition de la ville unique. Le comité de l'UNESCO entamera 11 jours de délibération à Bakou, en Azerbaïdjan, du 30 juin au 10 juillet 2019 pour déterminer quel site mérite d'être ajouté à la liste du patrimoine mondial parmi 1092 sites de 167 pays. En 2019, la liste de nominations comprend trois catégories différentes. La première catégorie est un site naturel. La deuxième catégorie comprend les sites culturels et la troisième une combinaison d'éléments culturels et naturels. Quelles destinations entreront sur les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO après de longues évaluations d'experts de terrain? Le compte Twitter de l'UNESCO annoncera le dernier patrimoine mondial le 10 juillet 2019. Les destinations qui sont entrées avec succès sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO seront de plus en plus connues et bénéficieront de la protection de l'UNESCO. Si elle est sélectionnée, la ville Sawalunto complétera les destinations indonésiennes figurant sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Auparavant, 8 destinations indonésiennes étaient entrées dans la liste. Les 8 destinations sont le temple Borobudur, le temple Prambanan, le parc national Komodo, le parc national Ujung Kulon, le site de l'homme antique de Sangiran, le parc national Lorenz, la forêt tropicale humide de Sumatra et Subak à Bali. Chers auditeurs, voilà l'Indonésie en couleur. C'est la chanson intitulée Antara Kita, qui signifie entre nous, chantée par Rida Sita Dewi. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Et pour ce soir, je vous donne la chanson de Keroncong.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, cette fois-ci, nous vous présentons une chanson intitulée Jikalau Aku Menjelma Kupu, qui signifie Si je suis un papillon. Créée par Budiman Bijay, c'est une chanson originale de Keroncong. Les paroles parlent de vos pieux et de présupposés pour devenir un papillon. S'il était un papillon, il volerait joyeusement à la recherche de fleurs et sucerait le miel. Voilà la vie du papillon. Son bonheur augmente si un papillon s'envole et cherche des fleurs avec son amant. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Jikalau Aku Menjelma Kupu, ou en français, Si je suis un papillon, chantée par Indah Susanti. Bonne écoute!
Hatimu senang selalu.
Voice of Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
C'est l'émission quotidienne en français pour ce soir. On se retrouvera demain dans la même heure et la même fréquence. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de commenter à notre Facebook de Voice of Indonesia. À bientôt!